Bonjour, c'est Axel Le Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air.
Marc Lhermitte, bonsoir. Êtes associé chez EY, c'est l'ancien Ernst & Young. Alors, la France, championne d'Europe pour l'attractivité. Votre étude a fait la une de la presse économique cette semaine. On voit là l'article du Figaro. Vous vous basez sur quoi pour affirmer le fait qu'on est champion d'Europe de l'attractivité?
Alors, nos équipes partout en Europe, et pas seulement en Union européenne, dans 45 pays européens, regardent les implantations annoncées et vérifiées par nos équipes de toutes les entreprises étrangères. Donc, ce sont des entreprises américaines, des entreprises européennes en Europe, des entreprises japonaises, chinoises. On regarde tout ça. C'est à peu près 6000 opérations qui sont menées dans une très grande Europe économique. Et quand on fait le compte à la fin, 1194, près de 1200, implantation et extension d'entreprises étrangères en France. Et c'est donc le podium, la première place du podium pour la France pour la cinquième année consécutive.
Voilà, on voit devant le Royaume-Uni et devant l'Allemagne. Alors, qu'est-ce que les étrangers trouvent de... quels sont les points forts de la France qui font que les étrangers, les Américains, par exemple, choisissent la France en priorité?
Alors, il y a d'abord des fondamentaux. Hein. Les fondamentaux, c'est qu'on est quand même la deuxième économie européenne, loin derrière l'Allemagne, hein, qui est quand même l'économie la plus puissante, à peu près 50% de plus que nous. Mais derrière, la France est une économie puissante avec de très grands secteurs, des donneurs d'ordre dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le luxe, qui tirent la croissance, qui tirent de la sous-traitance. Après, il y a eu des réformes. Des réformes qui sont, depuis quelques années, ont rassuré les investisseurs, ont donné un peu plus d'air à notre marché du travail, ont un peu réduit le coût.
Tout ce qu'on avait dit, là, les réformes El Khomri, les réformes Pénicaud, là, pour assouplir les règles de l'embauche et de la débauche, bah, tout ça, en fait, ça a plu aux investisseurs étrangers.
Ça a fonctionné. Et surtout, ça a fonctionné parce que ça a été tenu dans le temps. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une constance. La France, d'autres pays, mais la France était connue pour peut-être revenir un tout petit peu sur ses engagements auparavant, parce qu'il y avait une crise par-ci, un aléa ou une bascule politique par-là. Et là, ces réformes-là, depuis 7 ou 8 ans, c'est vrai, ça n'a pas commencé avec l'élection d'Emmanuel Macron, mais c'est l'élection d'Emmanuel Macron, les premiers gouvernements d'Emmanuel Macron ont mis ce sujet à l'agenda du gouvernement pour une raison très simple, c'est que ce sont des entreprises très importantes en France qui viennent aussi pour nos compétences, la qualité de nos compétences, la recherche et développement en France, et puis aussi pour nos infrastructures. On se plaint de nos services.
Bah, écoutez, il y a des nids de poules partout sur les routes de France, alors.
Là, il faut aller voir les nids de poules des autres, et c'est cela que...
Il y en a aussi en Allemagne et en Angleterre.
Il y en a un petit peu partout, malheureusement, c'est le mal du temps, mais en France, finalement, les entreprises trouvent que la qualité de nos infrastructures, transport, mais aussi numérique, les télécoms...
Ah, l'Internet à haut débit en France est un point fort par rapport à l'Internet à haut débit en Angleterre. C'est vrai que j'étais à Londres, ça marchait moins bien.
Moi, quasiment pas de rupture de charge. Bon, c'est plus ou moins compétitif, mais en tout cas, on est une start-up, on est un grand groupe, on est un individu. On peut exercer son activité en France.
Alors, cocorico, les entreprises étrangères choisissent la France pour se fabriquer. Sauf que les chiffres du commerce extérieur, Marc Lhermitte, nous disent autre chose. Nous disent que le Made in France, ça ne fonctionne pas du tout. L'an dernier, on a fait 100 milliards de déficit commercial. Ça veut donc dire qu'on produit peu en France et que tout ce qu'on consomme, on l'importe parce qu'on ne fabrique pas assez en France.
On apporte beaucoup d'énergie, on apporte aussi beaucoup de biens d'équipement et de biens de consommation de Chine et d'autres régions du monde. C'est vrai, c'est un des gros points noirs de notre économie avec encore l'emploi. Mais c'est vrai qu'on a... notamment par ces entreprises internationales, celles qui viennent par choix sur notre sol, un peu une des solutions à ce problème-là. Pourquoi ? Parce que ces entreprises qui sont finalement...
Les entreprises étrangères. Elles sont nombreuses en France ?
Elles sont un peu moins de 20 000, c'est-à-dire très petit nombre. Hein, c'est moins de 1% des entreprises en France.
1% des
moins entreprises. Moins de 1% des entreprises, mais elles pèsent 35%. 35% de nos exportations industrielles. Ça, c'est considérable. Ce sont des entreprises qui viennent pour servir le marché français, vous, moi, les entreprises, leurs clients, mais sont aussi des entreprises qui réexportent à partir de France.
Et typiquement, c'est quoi ? Vous avez des exemples de...
Dans l'automobile, l'équipement automobile, en fait, des entreprises qui viennent construire ici, maintenant, des batteries pour les véhicules électriques vont réexporter aussi vers d'autres constructeurs automobiles. Des entreprises qui viennent fabriquer des moteurs d'avion, des composantes et des pièces d'avion pour Safran, pour Airbus, les exportent aussi auprès d'autres constructeurs ou d'autres lignes d'assemblage. Donc c'est une économie des entreprises d'agroalimentaire, il y en a beaucoup, américaines notamment, qui sont en France depuis très longtemps, mais réexportent sur le marché européen une partie de ce qu'elles produisent, notamment dans les Hauts-de-France ou Mars, par exemple, à côté de Nîmes, qui réexportent des produits un peu partout en Europe et presque dans le monde. Cette exportation industrielle, c'est une des valeurs des entreprises internationales et de plus en plus vers le sud, vers l'Afrique et vers des pays de croissance.
Alors, on est numéro 1 1 français. Auparavant, vous disiez que les étrangers numéro 1 européens ont apprécié les réformes. Il n'empêche qu'il s'est passé quelque chose ces dernières années. Il y a eu le Brexit. Et c'est vrai qu'avant 2019, c'était toujours les Britanniques qui étaient numéro 1 en Europe pour l'attractivité. Ça a joué, ça au fond, c'est pas forcément nous qui sommes montés, c'est surtout les Britanniques qui ont trébuché.
Vous avez raison Axel, c'est une donnée importante. C'est aussi pour ça que la France rattrape une partie de son retard, elle le rattrape assez vite. Parce que le Brexit était une catastrophe économique.
Comment ils le vivent,
pour le Royaume-Uni,
les Anglais, d'ailleurs ?
Très mal, très mal. Alors, ils vivent mal cette première place française, parce que c'est un monde de compétition, c'est très gentleman, c'est l'entente cordiale, bien sûr, mais vu de Londres, hein, mon homologue à Londres, en ce moment, est probablement en train d'essayer de défendre la façon dont le Royaume-Uni peut redresser son rang. Il le fait en partie, on y viendra sans doute, mais sur l'industrie, sur les implantations d'usines au Royaume-Uni, où le Royaume-Uni était premier aussi sur ces activités, parce que le coût du travail est très
compétitif. Alors justement, on va regarder.
Le droit du travail est très permissif.
On dit que les entreprises recherchent un coût du travail pas trop cher. On va regarder le coût du travail en Angleterre, en Royaume-Uni, 28,60 € de l'heure, alors que la France est à 43,35 € de l'heure. On est même, c'est surprenant, plus une heure de travail en France coûte plus cher qu'une heure de travail en Allemagne. Pourtant, les salaires en France sont plus bas qu'en Allemagne.
Oui, alors on fait un choix en France de prestations sociales, de contributions sociales, ce sont les charges d'employeur.
Ce sont les charges qui font pèsent. L'heure est beaucoup plus chère en France.
Au Royaume-Uni, vous êtes un salarié, vous devez contribuer énormément, et ce sont des contributions que, en France, les employeurs prennent en partie à leur charge, sur l'assurance chômage par exemple, l'assurance vieillesse, tout un tas de prestations sociales. Donc il y a finalement une comparaison statistique qui n'est pas tout à fait juste, mais à la fin, des entreprises qui peut-être regardent quand même ces statistiques un peu froides vont se dire le coût du travail, c'est un fait, hein, le coût du travail est beaucoup plus compétitif au Royaume-Uni, même si le salarié va devoir se débrouiller avec son assurance santé, avec le prix de l'école qui est très important. C'est une donnée, et pour certaines entreprises ça fonctionne bien. Les start-up, les petites entreprises, les entreprises qui vivent par exemple dans leur pays d'origine, je pense aux entreprises indiennes, des conditions encore plus difficiles, notamment pour les salariés, et qui vont trouver que finalement le Royaume-Uni c'est pas mal, parce que on commence prudent, on commence avec des taux salariaux qui sont bas, on commence avec un droit du travail qui est aussi très permissif. Il faut savoir aussi qu'à un moment, ça fonctionne, puisque le taux de chômage au Royaume-Uni est assez bas.
Alors, longtemps, en France, le point fort, c'était l'électricité pas chère. Et ça, vous dites, c'est, aux yeux des étrangers, c'est un atout qu'on a perdu l'an dernier.
Oui, il y a une vraie alerte dans notre baromètre de cette année. C'est même le handicap le plus lourd, relevé par les 204 dirigeants que nous avons interrogés, le coût de l'électricité. Alors, pourquoi, alors que le coût de l'électricité est revenu début 2024 à des niveaux acceptables? C'est probablement parce que, justement, les entreprises, les dirigeants ont été assez marqués par ces certitudes d'une France avec une énergie abondante, pas chère, EDF, tout puissant, et qui faisait le job et qui, en 2022 et en 2023, l'a un peu moins fait. En tout cas, le marché de l'énergie a moins bien fonctionné parce que les entreprises se sont fait un tout petit peu prendre par surprise avec une flambée des prix.
Le parc nucléaire qui était à l'arrêt à la moitié.
Exactement, et un ou deux ans après, ça reste. C'est une sorte d'impression rétinienne de cette crise qui les a beaucoup marqués.
2023, vous dites, il y a deux choses aussi qui ont marqué négativement, impressionné négativement les patrons étrangers. La réforme, la révolte sociale contre la réforme des retraites et les émeutes de juin aussi.
Oui, il en reste quelques traces. Le climat social en France, je ne veux pas que les dirigeants, vous et moi, on s'en est habitués et on passe d'une année à l'autre. Mais c'est vrai que c'est une des zones de risque de l'économie française, de savoir quand même contenir ces éruptions sociales, cette agilité sociale, ou cette activité sociale, pardon, qui parfois, effectivement, prend des tournants assez graves. Il en reste quelque chose. Et puis, les entreprises nous reprochent assez régulièrement, nous le reprochent encore dans le baromètre de cette année, une fiscalité qui est encore assez lourde, même si beaucoup a été fait depuis quelques années pour réduire l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les impôts de production et d'autres fiscalités.
Mais ne boudons pas notre plaisir. J'ai pris quelques titres de la presse cette semaine. Le Parisien, la France chouchoute des investisseurs étrangers. Est-ce à dire que les étrangers nous voient plus beau que nous nous voyons nous-mêmes ?
Oui, c'est étonnant parce que les trois quarts des dirigeants qu'on interroge nous disent l'attractivité de la France peut encore évoluer, peut encore s'améliorer dans les trois ans. On se demande un petit peu dans quel pays vivent-ils ? Justement, ils vivent dans des pays, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Asie, où la France est vue comme, non pas comme un îlot de stabilité, mais finalement comme un pays qui vit moins de problèmes, des problèmes moins graves que ceux de nos voisins britanniques, nos voisins allemands. Les Allemands sont dans une situation politique et finalement énergétique, économique et difficile en ce moment. Et quand on voit avec un leadership politique qui, à l'extérieur de nos frontières, fait le job de vendre la France, quand on voit ça de l'extérieur, on séduit quand de l'intérieur, c'est un petit peu plus difficile.
Eh bien, ça fait chaud au cœur. La France, donc, cancre en matière de finances publiques. Ce sont les agences de notation qui nous l'ont dit la semaine dernière. Mais cette semaine, vous nous dites qu'on a les félicitations en matière d'attractivité. Merci, Marc Lhermitte. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur les perspectives de troupes françaises au sol en Ukraine suite à l'interview d'Emmanuel Macron dans The Economist. C'est dans l'air intitulé ce soir « Troupes françaises en Ukraine ». Ça se précise.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner, C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.